Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Présence Figeac 97.7. Donc toujours l'émission passionnément vôtre, qui, je vous rappelle, donc est en format maintenant rallongé, c'est-à-dire que au lieu d'une demi-heure d'émission, c'est diffusé en deux parties, donc ça va faire une heure d'émission. Et cette fois, j'ai la chance. Alors, j'avoue, je suis assez content parce que je ne connaissais pas ce genre d'activité. J'ai donc Roman Laval. Donc déjà, bon, Roman, merci d'être dans notre studio.
Bonjour, merci
beaucoup d'être venu. Donc ouais, je disais tout à l'heure. Chasseur d'orage.
C'est ça.
Rien que ce nom me fait rêver. Alors, avant de vraiment parler de ta passion, parce que c'est une passion, j'imagine que c'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est dans ton enfance? Est-ce qu'un jour il y a un orage qui t'a impressionné, ou comment ça s'est venu, cette découverte?
Ben effectivement, c'est pas d'aujourd'hui que c'est, voilà, c'est pas apparu hier, hein, comme passion. C'est une passion qui remonte un petit peu à loin. Moi, j'ai toujours été passionné de phénomènes météorologiques. J'ai toujours aimé voir comment se formaient les nuages, ce qui se passait dans le ciel, et surtout toujours passionné de phénomènes météorologiques sévères. Donc tout ce qui est les tornades, les ouragans, les orages, tout ce qui peut être un petit peu violent, quoi. Comprendre ce qui se passe derrière ces mécanismes-là. Et ça remonte depuis mon enfance, hein, quand j'avais 3 ou 4 ans. Il y a eu un jour un gros épisode de vent. On était en appartement avec ma mère. Et j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Déjà, ça me passionnait énormément. Et j'arrêtais pas de rabâcher à mes parents. Bon, il y avait un film là qui m'avait même interdit, c'était le film Twister, parce que j'arrêtais pas d'en parler parce que ça m'impressionnait vachement. Et ils avaient peur que j'en fasse vraiment une syncope, quoi. Et ce film là, eh ben, il m'a vachement travaillé. J'ai pu le regarder en cachette, et là j'ai dit, ben, c'est ça que je veux faire, quoi.
Ça a été le déclencheur, en fait. C'est ce film qui a été le déclencheur.
Alors ça a été un des déclencheurs. Ça a été ce gros épisode de vent. Puis même je crois suivi d'un orage, et puis ça a été ce film Twister, ça a été vraiment le déclencheur. J'ai dit à ma mère, bah, écoute, un jour je partirai aux États-Unis et je ferai ça. Et ma mère, oui, ok, en
fait. Oui, il ne fera pas, mais il l'a fait.
Voilà.
Donc en fait, on est bien d'accord. Donc en fait, comme beaucoup de personnes craignent ces épisodes sévères, comme tu dis, les orages, ouais. Donc en fait, quand tout le monde va se planquer, quand il y a un orage, toi t'es le seul qui court au milieu, on est d'accord?
C'est un petit peu ça. Alors le seul, non, mais il y en a d'autres, hein, mais on est les seuls. Je suis le seul à sortir. Ou du moins, je vais vraiment sous le phénomène, et j'essaye de me rapprocher, d'être au plus près, et de faire des photographies, d'être vraiment au plus près des éléments, quoi.
Justement, j'ai vu sur ta page Facebook des photos splendides de foudre, des
Merci.
Photos de... Non, franchement, enfin, je me dis, moi, je serais pas sorti, mais bon, toi, manifestement, toi, t'aimes ça, mais...
Ben, disons que il y en a qui ont besoin d'aller à la mer, il y en a qui ont, c'est la plongée sous-marine, il y en a c'est le football. Bon, ben moi je suis peut-être un petit peu plus bizarre que cela. Moi c'est les orages, quoi. J'ai besoin de sortir quand ça pète, j'ai besoin de sortir quand il y a de la lumière, quand il y a du bruit, et comprendre un petit peu toute cette masse noire, qu'est-ce qui rentre en jeu pour que ce soit aussi violent, et pourquoi on est tout petit face à de tels phénomènes. C'est ça qui m'anime, finalement.
Mais alors, quand il y a un orage, c'est... Il y a de la peur, il y a au contraire une montée d'adrénaline. Comment ça se passe, en fait, pour toi, quand il y a un orage? Qu'est-ce qui ça te déclenche de suite?
Alors c'est un peu, ouais, c'est une bonne question. C'est un petit peu c'est un petit peu bizarre, parce que alors au début, y avait un petit peu de peur. Justement, on comprend pas vraiment ce qui... C'est très gros, on comprend pas vraiment ce qu'il y a dedans, pourquoi c'est aussi noir. Donc au début, il y a toujours un petit peu de peur. Quand j'étais gamin, il y avait de l'appréhension. Et puis petit à petit, il y a eu de moins en moins d'appréhension. Je me suis intéressé à la science de l'orage, la formation, tout ce qui se passait dans l'orage. Et plus je me suis intéressé à la science de l'orage, moins j'ai eu peur, finalement. Parce que j'ai compris que ça représentait une harmonie sur la Terre, que s'il n'y avait pas d'orage, eh ben, il n'y aurait pas d'autre chose qui pourrait se passer. Il n'y aurait pas un équilibre, finalement, un bon équilibre, quoi. Et alors, il y a de l'adrénaline, hein. Il y a de l'adrénaline, et puis il y a cette sensation, encore une fois, d'être tout petit face à un gros élément, et c'est ça qui est pas mal. Donc il y a à la fois la science, la compréhension, et il y a l'adrénaline. Ouais.
Alors je sais que tu es quand même un spécialiste en météo et tout, donc voilà, justement, pour nous, les novices. C'est quoi exactement, voilà, le terme technique d'un orage? Comment se fabrique un orage? Comment ça se passe?
Ouais, alors déjà faut savoir un truc, c'est que le nuage d'orage, c'est le plus gros nuage de l'atmosphère. Hein. Donc un nuage d'orage, ça se forme avec un gros contraste finalement entre le sol, hein, et le ciel. Mm-hmm. Donc au sol, on va avoir une température assez chaude, hein, on va avoir 15-16 degrés par exemple, en point de rosée, c'est la température du sol. Et en altitude, on va avoir moins 45, moins 50 degrés, quelque chose comme ça. Donc l'air s'élève. L'air chaud s'élève vers l'air froid, ça crée des cristaux de glace, c'est la formation du cumulus, ça commence par un petit nuage. Ensuite il y a la formation du cumulus congestus, là c'est le nuage qui pousse un petit peu plus, et c'est en fait ces espèces de petites tourelles qu'on voit l'été, c'est des espèces d'explosions atomiques. Mm-hmm. Et la grosse explosion atomique, c'est le cumulonimbus. Et le cumulonimbus, quand il arrive à maturité, c'est la fameuse explosion, il y a une espèce d'enclume dans le ciel. Et on parle d'orage qui arrive à maturité. C'est à partir de là que l'orage peut donner de la foudre. Et la foudre, l'élément qui fait le plus peur, c'est en fait les cristaux de glace qui s'entrechoquent. Ça électrise le nuage et ça donne ces coups de foudre qui font aussi peur aux gens, quoi.
Et bon, le truc, voilà. Je parlais quand j'étais petit, donc il y a longtemps, je crois qu'on appelait ça des orages de chaleur, c'est-à-dire en fait, ouais. Il ne pleut pas. Mais par contre, il peut se balancer des coups de foudre impressionnants. Comment ça se fait donc en fait qu'un orage s'appuie? Moi qui est novice, comment on peut l'expliquer en fait?
C'est souvent des orages localisés. L'orage s'appuie, c'est parce que il y a une condition dans l'atmosphère qui fait que le nuage n'a pas assez poussé, ou qu'il est juste arrivé à maturité pour lâcher de la foudre, mais qu'il n'a pas il n'a pas assez poussé dans l'atmosphère pour que les gouttelettes d'eau soient lourdes. Il faut savoir que l'orage, quand il arrive vraiment à maturité, les particules d'eau, elles s'agglutinent, elles se rassemblent, elles sont de plus en plus lourdes, et c'est là qu'elles tombent.
D'accord.
Il y a aussi la grêle. Et les orages sans pluie, finalement, c'est que les particules d'eau, elles ne sont pas agglutinées, elles n'ont pas eu le temps. Donc l'orage est à maturité, donc il génère de la foudre, mais par contre, les gouttelettes, elles ne sont pas si lourdes. Donc elles restent en suspension et elles ne tombent pas. Les orages de chaleur, ce sont des phénomènes vachement localisés et très esthétiques pour nous, chasseurs d'orages, puisque c'est sans pluie. Et
pour les photos, ça
c'est
magnifique.
Et pour les photos, c'est top, quoi. C'est...
Et alors, j'en profite, comme je dis, je suis novice. Quand j'étais gamin, on me faisait croire qu'un tonnerre, il suffisait de calculer combien de fois ça tombait pour savoir combien de kilomètres il était.
Oui, oui.
C'est vrai ou c'est une légende?
Oui, non. Ah, d'accord. C'est à peu
on
près vrai.
On m'en dit,
non, c'est à peu près vrai. Après... C'est vrai que c'est toujours compliqué, les secondes, bon, on n'est pas des ordinateurs, donc on ne peut pas calculer vraiment la distance d'un orage. Mais maintenant, par contre, il y a des applications qui permettent, avec des radars Doppler, il y a beaucoup d'applications qui se mettent en place, des applis gratuites, qui permettent de voir la distance entre l'orage et notre position, quoi. Donc ça, c'est plutôt... Il vaut mieux une appli que calculer soi-même. C'est plus précis et moins dangereux.
Ouais, je me doute. Et alors, je parle en France, parce que dans la deuxième partie, on va parler spécialement de séjours aux États-Unis. T'as le souvenir, peut-être pas la région, mais d'un très gros orage qui, à la limite, a impressionné, ou non, à la limite, en France, les orages sont toujours plus ou moins les mêmes?
Oh non, on a... Alors, c'est compliqué de dire que les orages sont de plus en plus forts. Au jour d'aujourd'hui, la majorité de la population pense que les orages sont de plus en plus violents. Alors déjà, ça s'explique par le fait qu'il n'y avait pas assez d'appareils pour filmer les phénomènes météorologiques. Mais historiquement parlant, on n'est peut-être pas encore assez avancé pour dire qu'il y a plus d'orages forts, il y a moins d'orages forts. Ça dépend des périodes. Là, un orage qui a impressionné énormément de monde sur la commune de Decazeville, et cet orage-là, je le bûche encore, je cherche encore pas mal de questions, c'est l'orage du 11 juillet 2024. Sur la commune de Decazeville, qui a fait énormément de dégâts, avec de la grêle d'un bon 5-6 cm par endroit. Donc ça a tout cassé. Hein. Et en fait, cet orage-là, c'est le plus gros orage qu'on puisse connaître en termes de météorologie, c'est la supercellule.
Mais en plus, ce qui m'a impressionné, parce que là, je me souviens, bien sûr, à Decazeville, ça n'a pas duré. Enfin, aussi pour les gens, c'est toujours trop long.
Ouais, bien sûr.
Et tout, voilà. Mais en fait, le phénomène n'a pas été non plus hyper long. Comment ça se fait qu'il peut y avoir autant de violence météorologique en très peu de temps et que ça fait en plus énormément de dégâts.
Ben, c'est un phénomène. Un orage déjà, c'est alors. Un orage déjà, c'est super, c'est assez compliqué à prédire parce que c'est un phénomène vachement localisé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des trombes d'eau et 10 cm de grêle sur une commune, alors que la commune qui est à côté, à 4 km, peut avoir un grand soleil, quoi. Et alors pourquoi ça a été aussi violent en peu de temps? Ben c'est parce que cet orage, les paramètres étaient très très bons. On avait une instabilité très très bonne, on avait une dépression sur le... Il me semblait, je ne me rappelle plus très bien la configuration, sur le golfe de Gascogne. Ça a généré ce qu'on appelle un forçage. Les profils verticaux étaient très bons. Bon, en termes de paramètres météo, on était très très bons. On s'attendait déjà à des phénomènes forts. Et ça n'a pas été assez... Il y a eu un manque de communication. Et en fait, on parle d'une supercellule, donc c'est un orage qui rentre en rotation et qui est même capable de donner un autre phénomène très très localisé, c'est la tornade. Voilà. Et cette supercellule est passée sur de Casseville et elle a fait des centaines de kilomètres, elle a parcouru des centaines de kilomètres, elle a commencé pas loin du Bordelais là-bas.
Alors justement, voilà, on va revenir dans la deuxième partie sur... parce que c'est vrai qu'à Decazville, ça avait beaucoup de détails, ça avait surtout été très impressionnant.
Oui.
Nous allons faire une petite pause dans ton émission. Donc nous sommes toujours avec Roman Laval qui vient nous faire plaisir de parler d'orage et on sent qu'il s'y connaît. Et là, donc tu viens de demander une petite musique de film, Twister. Ça peut pas être mieux pour ton émission.
Ah, donc, c'est parfait.
On va lancer Twister et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie. Merci.
Merci.
Présence à Figeac 97.7.
Et nous voilà donc de retour à l'antenne après la pause de Twister. Ça aura laissé des souvenirs à beaucoup de personnes, parce que j'avoue que c'est un film que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, en passant, Romain de Laval, donc, que je remercie encore d'être là. Alors, je suis désolé, il ne fait pas orage aujourd'hui. Je sais que tu vas être déçu, mais bon, je n'ai pas pu prévoir ça. On a écouté Twister avant de parler donc des orages. Ça reflète la réalité ou les Américains ont un peu rajouté?
Ça dépend de quoi on parle. Dans Twister, il y a les...
Quand tu chasses les orages, quand tu les vois courir après les orages, est-ce que c'est vraiment...
Non, mais c'est, ça se rapproche quand même de la réalité.
D'accord.
Ça se rapproche de la réalité. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu de vaches voler. Donc, après, je ne peux pas témoigner de tout. Mais, non, mais après, c'est un peu hollywoodien. Hein. Il faut que ce soit pour tous les publics. C'est normal. Mais si, ça se rapproche quand même de la réalité.
Il y a un point de réalisme, quand même.
Ah oui, complètement. Ah, mais même complètement, oui. Tout à fait.
Et oui, d'ailleurs, la première partie, tu me disais que c'est ce film qui avait été en partie déclencheur de ta passion.
En partie, ouais, mais une bonne partie, ouais.
Et alors, du coup, j'imagine quand même, entre les orages et les photos que tu as fait, donc je me dis, bon, t'es allé au plus près de ces phénomènes, tu dois avoir des souvenirs incroyables en tête. Raconte-nous tes derniers, j'allais dire, exploits.
Il y a quelques anecdotes qui sont pas mal. Après voilà, quand on chasse les orages, on sait que ça peut être un petit peu risqué, on sait qu'il peut y avoir des... Après, ça dépend. Il m'est arrivé avec des anecdotes avec de la foudre, notamment. Mm-hmm. De la foudre qui tombe pas loin. Il m'est arrivé d'avoir un impact de foudre justement sur Figeac, qui est tombé sur une antenne relais. Alors là, on sait que les feux de l'amour, ça coupe, hein, surtout Figeac, quoi. Tout avait coupé. Et puis, moi, je suis passé juste à côté de ce relais en voiture. À ce moment-là. Alors, une épaisse fumée blanche, je ne sais pas trop ce que ça a cramé. Et toute la voiture, tout l'électronique de la voiture, la batterie, même le moteur, tout s'est petit à petit commencé à dysfonctionner, en fait. La voiture a commencé à s'éteindre, puis elle a redémarré toute seule. Et alors, tout s'est remis à zéro, j'ai dû tout reparamétrer, etc.
Vous venez de rentrer dans la troisième dimension.
Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça.
Ça t'a surpris, honnêtement, ou non? Toi qui connais les phénomènes, est-ce que c'est courant que ça fasse ça ou...
C'est marrant ce que je vais dire, mais moi j'étais content de voir l'impact de foudre juste à côté de moi, parce que bon, on recherche aussi les sensations, même un peu trop peut-être des fois, mais non, ça m'a pas surpris, parce que quand on sait que c'est un impact de foudre, c'est 60 000 degrés et je ne sais plus combien d'ampères, beaucoup, oui, tout ce qu'il y a autour, oui, ça fait dysfonctionner pas mal de matériel, ouais.
Mais donc tu parlais de souvenirs incroyables, alors j'ai appris donc pendant l'intermède musical que ta compagne, tu l'as convaincue d'être aussi chasseuse d'orage, ça s'appelle.
Elle s'est convaincue toute seule. Hein,
voilà. Donc vas-y, parle-nous donc comment ça se passe avec ta compagne. Je sais pas, vous vous levez un matin et dites tiens, on va chasser les orages.
C'est un peu ça. Quand on travaille pas ou quand on peut allier le travail avec les chasses du jour. On y va. On voit que le matin. Bon après c'est. Je fais des prévisions sur quelques jours, on le sait à l'avance, on s'organise, et puis le matin on se lève, on y va. On fait 50, 100 km, et des fois on peut faire 800 km. Oui. Ça m'est arrivé de faire 800 bornes dans la journée, puis de rentrer à la maison sans rien.
Ça
fait chier, clairement. Mais c'est le jeu et finalement ma compagne c'est très bien pour prêter au jeu tellement bien qu'un soir on monte sur le point de vue qui est juste à côté de chez nous, la foudre tombait relativement proche, elle est même tombée sur un poteau à 40-50 mètres, ça a fait des étincelles partout et alors là il y avait les trépieds dehors. En termes de sécurité, on va pas aller récupérer les trépieds, même si c'est du carbone, etc. Bon, bref. Et puis elle ouvre la fenêtre, elle va commencer à aller récupérer les trépieds. Puis là, j'ai dit, mais en fait, t'es aussi cramé que moi, quoi. C'est parfait. C'est ce que je recherche. C'est très bien. Mais par contre, non, on remonte la vitre et non, tu vas pas chercher les trépieds. Mais du coup, elle s'est prêtée au jeu et ça fait 2 ans qu'elle me suit et je l'initie à l'orage et aussi à la sécurité. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'il peut y avoir juste à côté.
Ah, de l'intensité ?
De l'intensité. Et puis même, il y a Il y a le danger de chasser l'orage. Il y a la foudre qui va dans le sol, hein, qui fait des ramifications dans le sol, mm-hmm. qui peut même remonter à plusieurs centaines de mètres. Hein. Ça, c'est les ascendants. Mais après, il y a aussi la grêle. Il y a les crues éclairs. Si on est à côté d'un point de vue et que on est à côté d'une rivière, quand on va descendre du point de vue, si la rivière est sortie de son lit, voilà. Il y a plein de, on peut glisser en voiture, on peut faire des aquaplanings. Bon voilà, il n'y a pas que la foudre, hein, il faut gérer la conduite aussi, hein, pendant l'orage.
Oui, je m'en doute. Mais ça, de toute façon, on en parlera dans la seconde partie parce que tu es aussi prévisionniste. Mais j'aimerais, parce que j'avoue que c'est le moment de l'émission que j'attendais. Donc chasseur d'orage, qui dit chasseur d'orage dit Twister, qui dit Twister États-Unis, dont Romain Laval s'est carrément déplacé là-bas. Je te dis, ils sont plus impressionnants où tu allais prendre des risques là-bas. C'est ça.
C'est ça, complètement.
C'est vers où en fait? C'est où les plus beaux orages, les plus impressionnants? C'est où aux États-Unis?
Alors aux États-Unis, il y a une célèbre zone, hein, qui s'appelle la Tornado Alley. Les États-Unis, c'est une zone où il y a énormément de champs. C'est vraiment tout plat, c'est très très vaste. C'est les grandes plaines américaines. Hein. Et bon, les orages, tout ce qui est grandes plaines, grands espaces, eh ben, ils aiment ça. Surtout les tornades, hein, pour se former, puisqu'elles ont pas de, y a pas de vallée, donc ça coupe pas la connexion qu'il peut y avoir entre, si je puis dire, entre l'orage et le sol. Et en fait, eh ben, cette Tornado Alley, en ordre de, pour donner un petit aperçu là, de la localisation, ça va être le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, un petit peu vers le Colorado. C'est très très étendu, un peu le Nebraska, l'Iowa. En fait, c'est vraiment le centre américain en partant un petit peu vers l'est. Et oui, en fait, en 2023, je me suis dit, ben bon, tu les chasses en France. Une opportunité m'a été donnée par des collègues chasseurs d'orage qui avaient monté un groupe, qui avait plus d'expérience, hein, qui y allait chaque année. Et puis bon, ben, j'ai décidé de participer à l'aventure. J'ai dit, bon, ben on les chasse en France maintenant, mais je fais le grand pas. Et ça s'est fait, pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait très rapidement. J'ai pris mes billets d'avion assez rapidement, j'ai dit oui rapidement. Faut pas réfléchir quand on fait ça. Et me voilà parti dans les grandes plaines américaines, à chasser les tornades et les orages, les plus gros orages du monde, quoi, si je puis dire.
Voilà. Et donc j'imagine que t'as assisté à un orage ou à une tornade peut-être?
Ah, heureusement, parce que sinon
t'as déjà fait 800 bandes pour rien, j'espère que là ça a été l'inverse.
Ouais, non, ça, on se déplace pas pour rien, et là je me suis clairement pas déplacé pour rien, parce que oui, j'ai assisté à une, alors j'ai pas assisté à des énormes tornades, mais on y retourne avec ma compagne, j'y retourne et elle va faire le grand saut en 2026. Mais j'ai assisté à une tornade dans l'Iowa. Et j'ai assisté à des orages que pour le moment on ne pourra pas voir en France. Du moins, c'est des structures, des espèces de vagues qui vous arrivent dessus, c'est impressionnant. J'ai assisté à des super cellules qui ramassaient tout le sable, notamment dans le Nouveau-Mexique. C'est une des plus belles super cellules que j'ai fait. C'était ce qu'ils appellent, les Américains, une mothership, un vaisseau mère. En fait, c'était clairement un ovni, quoi. C'était un orage, mais qui était en forme d'ovni. Et là, en fait, je me suis senti encore plus petit. Et je me suis dit, en fait, ouais, je suis à ma place.
L'adrénaline devait être à fond, là.
Oui, mais l'adrénaline, on l'oublie parce que c'est un moment qui est... On sait qu'on est privilégié de vivre ce moment-là en tant que passionné. Donc, en fait, tout s'enchaîne très, très vite. Les autres ils étaient concentrés sur la route. En plus, il y avait l'anecdote, c'est qu'il n'y avait pas 10 000 routes, il n'y avait qu'une route, et cet orage empruntait la même route, donc il fallait dégarpir assez rapidement. On n'avait pas beaucoup de temps finalement, parce que la grêle était juste énorme et on aurait pu bousiller le véhicule, hein, clairement. Donc mais on se sent vraiment petit, et à ce moment là je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et en même temps, je suis à ma place. Alors c'est un petit peu bizarre, au début, les États-Unis, parce qu'on... C'est bizarre parce qu'il y a quand même les Américains, c'est des phénomènes qu'ils subissent, hein. Il y a des morts à chaque année. Donc on a la passion, mais il y a aussi, moi j'ai vu des gens, j'ai vu un gars prendre sa femme et ses enfants et se barrer en pick-up, tout laisser, les chiens, enfin, tout laisser et partir comme ça, parce que ils ont pas le même, eux c'est pas leur passion, eux ils aiment pas ça,
oui,
quoi.
Oui, oui.
Eux ils détestent ça. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a, ça fait des morts, il y a des victimes, etc. Mais c'est merveilleux à la fois.
Voilà. Mais pour un chasseur comme toi, oui, c'est le Graal, quoi.
Oui, c'est le Graal, c'est merveilleux, mais faut pas oublier que ça fait des victimes.
Oui, ça fait des dégâts.
Faut vraiment le prendre en considération quand on va là-bas. Et
aux États-Unis, t'as croisé une vache volée, non? Toujours pas.
Non, toujours pas. Peut-être en 2026, mais toujours.
Mais
pas.
Mais c'est bien, ouais. Que en plus avec ta compagne. D'ailleurs, on sait toujours pas son prénom.
Amandine.
Voilà, pour dire ça comme moi, on va dire Amandine.
C'est ça.
Donc voilà, donc Amandine, tu l'embarques en 2026 pour aller.
Complètement.
Voilà.
À sa demande. J'ai demandé si elle était bien prête. Hein. Ça fait 2 ans qu'elle chasse les orages. Mais bon, on a fait l'Italie en 2024, où c'est qu'il y a des gros orages aussi. Et donc là, bon, mais les États-Unis, voilà.
Eh bien, écoute, alors, je suis content parce que là, j'ai enfin. Je sais ce que c'est aux États-Unis. Donc, on va clôturer la première petite émission, parce que je te consacre, oui. Donc, deux émissions. Et la prochaine émission, on va parler donc de ta passion aussi pour les prévisions météo. Ça m'intéresse.
D'accord.
Donc, on va en parler dans ces deux parties. Et donc, nous nous retrouvons donc pour la prochaine émission, toujours sur Radio Présence Figé à 97.7, toujours avec Romain Laval, un chasseur d'orage. Merci, au revoir.